Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
C'est extraordinaire de faire un métier où on se crée un public, des gens qui vont vous aimer, souvent longtemps, longtemps.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Au sommaire cette semaine, un triple hommage, imprévu, inattendu, et pourtant c'est comme ça que l'année 2018 a commencé. Au lendemain du jour de l'an, on apprenait la mort des éditeurs Bernard de Fallois et Paul Otchakowski-Laurence, plus connus sous le nom de sa maison d'édition POL. Et puis, au moment où l'on pensait à ce matin du 7 janvier 2015, le 7 janvier 2018, l'ombre de Cabu, de Wolinski, les amis de la librairie francophone, et puis évidemment tous les autres, partis comme ça, un début d'année, brutalement, injustement. À ce moment-là, on apprenait la mort imprévue, elle aussi, de France Gall. L'imprévu a bouleversé bon nombre d'entre nous, renvoyant à nos souvenirs de vie. C'est donc une émission très particulière et imprévue que nous vous proposons aujourd'hui. Nous rendrons hommage à Bernard de Fallois, avec l'écrivain à succès révélé par cet éditeur, le Suisse Joël Dicker. À Paul Otchakowski-Laurence, avec le prix Goncourt 2008, l'écrivain afghan Atiq Rahimi. À France Gall, avec Philippe Delerme et la musique du groupe canadien Arcade Fire. Nous célébrerons aussi, dans un autre registre, le 500e numéro de Flûte Glaciale avec l'immense dessinateur Jean Solé. Et nous parlerons d'un premier roman sur l'intensité de l'amitié avec la Belge Myriam Leroy.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires, comme chaque semaine, sont en multiplex avec nous. Un nouveau libraire rejoint la librairie francophone. Libraire à Paris, au pied de la rue Mouffetard, directeur de la librairie Les Traversées, ex l'Arbre à Lettres. Et si vous êtes de grands fans de l'émission, vous le connaissez. Bonjour Antoine Front.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Bon, ça va en pleine forme. On est ça ravis. Me fait plaisir de revenir parmi vous.
Ah ben oui, 8 ans après.
Ouais.
Vous étiez bon employé de l'Arbre à Lettres et vous êtes aujourd'hui le patron de cette magnifique librairie.
J'ai appris ça avec des collègues.
Oui, ouais, mais quand même.
Dire ça comme
voilà,
ça.
Félicitations, on est ravis de vous retrouver. Merci. Bienvenue à nouveau Antoine, bonjour Annick Dor.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde.
Vous vous souvenez d'Antoine?
Bien sûr,
bah oui,
bien sûr.
Vous avez commencé avec lui, hein. On est un peu les vieux hein, de l'émission. Vous êtes libraire en Belgique, à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Pour représenter la Suisse et la pétillante, bienveillante et compétente Laura Sanchez. Bonjour Laura.
Oh là là, bonjour.
C'est le début de l'année, hein. Profitez-en.
Oui, merci, je prends.
Vous êtes libraire dans la librairie du Boulevard à Genève. Et enfin, au Canada, on retrouve la douce Marie-Noëlle Blé, libraire à Montréal dans la librairie Raffin. Bonjour Marie-Noëlle.
Bonjour Emmanuel.
Soyez la bienvenue à nouveau dans cette émission. Bonjour Joël Dicker.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bernard de Fallois, votre éditeur, celui qui vous a révélé avec ce roman à succès, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, est mort le 2 janvier à l'âge de 91 ans. Il avait été l'éditeur attitré de Marcel Pagnol, l'ami intime du Belge Georges Simenon. Il crée sa maison d'édition indépendante en 87 alors qu'il a 61 ans, les éditions de Fallois. Et vous avez dit, Joël, à sa mort, c'est un homme qui rêvait bien plus fort que moi, et ce, malgré votre grande différence d'âge.
C'est vrai. C'est un homme d'abord à qui je dois tout, parce qu'il m'a édité, il m'a appris une partie de son métier. Je ne suis que le dernier ou un des derniers écrivains parmi une lignée extraordinaire qui l'a fait paraître, qui l'a fait connaître. Donc c'était un homme qui avait 60 ans d'avance sur moi et qui en même temps avait, je pense, 60 ans de moins que moi. Parfois, en tout cas, je le pensais quand j'entendais me parler et qu'il rêvait, qu'il me disait « on va faire comme ça, sa grosse voix, et on va faire ça ». Et ça me semblait complètement fou. Et j'ai trouvé en lui un homme qui non seulement rêvait, mais se donnait les moyens de rêver. C'est-à-dire que, à ses ambitions extraordinaires, il me disait « on va y arriver ».
Bernard de Fallois était très exigeant. Hein. Vous le savez, Joël Dicker, vous l'avez subi, mais c'est important d'être exigeant.
C'est comme ça
qu'on arrive à la qualité. Et il savait attendre longtemps avant de publier un livre. Pourtant, quand il lit l'affaire Harry Kébert, il est captivé. Écoutez Bernard de Fallois parler du roman de Joël Dicker.
Pour la première fois, j'ai eu le sentiment de me trouver devant le livre qui vraiment possédait un pouvoir magique sur le lecteur et l'entraînait de telle sorte qu'il vivait pendant 2 ou 3 jours une aventure qui lui rappelait des grandes heures de sa jeunesse, mais qu'il avait complètement oubliée.
Ce qui a plu à Bernard de Fallois, c'est cette capacité à laisser une trace. Votre livre a selon lui une puissance d'envoûtement. Il génère une addiction, c'est très rare, c'est vrai, il a raison. C'est ça, c'est rare de tenir le lecteur en haleine comme ça. En plus, c'était un sacré gros bouquin, je m'en souviens encore.
Écoutez, ce qui est sûr, c'est que Bernard était un véritable amoureux de la littérature. C'est-à-dire, avant même les mots, avant même de savoir ce qu'on en pense, avant même de savoir si c'est bien écrit ou pas, il accordait une importance particulière à ce qu'on ressentait. Et le sentiment, il en parlait souvent en parlant des livres de Simenon, il disait « être banal, tout le monde peut être très banal, mais être simple, c'est très difficile.
Oui. » Et vous avez reçu 90 propositions d'adaptation pour la télévision ou le cinéma. Même Steven Spielberg manifeste son intérêt, il appelle l'éditeur d'ailleurs, mais il est conduit.
Alors, pas Steven Spielberg, directement,
son assistante.
Était intéressé, ouais. Voilà, sa boîte, son vice-président. Alors, je précise un peu parce qu'on a déformé un peu ce que j'ai dit.
Alors, dites-moi.
Et la vraie question, c'est que je pense que Steven Spielberg lui-même n'a jamais lu le livre, n'avait pas d'intérêt. On vous dit, vous savez, c'est les Américains, ils vous disent toujours « amazing », ils adorent, on va faire un truc énorme. Et en fait, ils font rien. Et Bernard l'a compris le premier. D'abord, il le savait déjà parce qu'il avait déjà eu affaire à eux. Et il m'a expliqué, moi, j'étais complètement excité. Je lui disais « Bernard, c'est génial, il faut dire oui, il faut dire oui ». Et il me disait, vous le disiez très bien, il me disait « on se calme.
Ouais. »
Et il était très exigeant. Et il voulait un projet. Et il avait une question à qui tous les producteurs disaient « c'est impossible ». Il disait « avant de signer le contrat, vous allez monter le projet et s'il me plaît, je vous signerai après un contrat ». Et les gens disaient « mais vous êtes fous, c'est impossible ouais. ». Et il est arrivé à ses fins, parce que c'est comme ça et par sa persévérance qu'on a monté le projet qu'on a pu faire avec Jean-Jacques Hano, mené par Fabio Conversi et qui, je crois, va donner une série très belle.
Une série de 10 épisodes.
Une série de 10 épisodes.
Tournée au Canada.
Tournée à Montréal, ouais. Absolument, et sur la Côte-Nord. Jean-Jacques Hano a réussi à rendre vraiment la passion du livre et je crois qu'il a eu la même passion que Bernard avait quand il ouais. a édité ce livre. Ouais. C'était très important.
Avec un casting international. Que vont devenir les éditions de Fallois, vous le savez, Joël Dicker ?
Eh bien, pour l'instant, elles tiennent bon. Bernard était un homme qui prévoyait tout. Alors, il a préparé ses livres et ses publications jusqu'au mois de juin. Je crois qu'il y a même du travail pour le mois de septembre. Et en tout cas, jusque-là, ça avance. J'ai moi-même un livre qui paraît, sur lequel on a travaillé, lui et moi, début mars.
Oui. Et qu'il a validé, prêt, alors.
Et qu'il a validé.
Parce que vous savez qu'il avait dit à un confrère, si un jour un livre de Joël Dicker est mauvais, je ne l'éditerai pas.
Oui, 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 absolument.
Et il me disait aussi, non, malgré le succès que vous avez, parce que c'est
très important.
Parce que vous en vendez des centaines de milliers.
On avait un contrat à la fois, et il me disait, si c'est bien, je le fais, si c'est mauvais, je ne le fais pas.
Incroyable.
Et donc, il a lu le livre, on a préparé le livre, on a corrigé le livre, et puis il est parti à la fois juste un peu trop tôt, parce que j'aurais voulu qu'il puisse voir ce livre, cette série et tant de choses. Et en même temps, il est parti comme il est venu dans ma vie et dans la vie des gens, je crois, c'est-à-dire comme un général. Il avait cette stature, cette présence et il est parti avec force en laissant tout en place. Bernard de Fallois n'est peut-être plus physiquement présent, mais son esprit est bien ici en tout cas.
Bon, vous viendrez nous parler de ce livre alors.
Avec plaisir.
Bon, je vous invite d'avance.
Bah, je suis là.
On le fait jamais.
Je ne bouge plus d'ici.
Allez, c'est bon, on fait ça. Merci beaucoup, Joël Dicker. Merci d'être venu aujourd'hui dans les studios de la librairie francophone pour rendre hommage à ce grand éditeur disparu. Donc, en ce début d'année, on lui rendra hommage avec vous et avec ce nouveau livre qu'il a soutenu.
Avec plaisir et merci pour le son avant. Ça m'a fait très très plaisir de l'entendre.
Merci à vous. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Nous allons parler de votre nouveau recueil de textes autour des petites phrases qui vous agacent dans la vie. Ce sera tout à l'heure, mais avant, vous avez accepté de rendre hommage à France Gall avec nous. Et pour commencer, vous avez choisi un extrait de Cézanne Pain. On écoute et vous nous expliquez.
Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne Pain. Laisse s'accomplir le prodige de ses mains, ses alpins. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien.
Pourquoi avoir choisi d'écouter Cézanne Pain, Philippe Delerme ?
Oh bah c'était indiscutablement une des deux chansons de France Gall que je préfère. Il y en a une que je préfère encore, c'est Évidemment, qui est une chanson très très mélancolique. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a une vie quand même qui est devenue très mélancolique, alors que c'est a priori quelqu'un qui était, semble née avec une cuillère comme ça en or dans la bouche et faite pour un destin doré, léger, un peu superficiel. Et puis moi j'ai eu beaucoup d'admiration pour l'attitude de cette femme. Bon, c'est une interprète, j'ai a priori davantage de goût, vous l'imaginez, pour les auteurs, compositeurs, interprètes. Mais je trouve d'abord que c'est une très bonne chanteuse avec une excellente voix, très jazzy, quand elle chante des chansons comme Ella et là. Et là je trouve qu'il y a eu une bonne période justement avec des chansons de Michel Berger. C'est notamment cette chanson là qui est quand même assez étonnante, enfin voilà. Choisir comme sujet de chanson Cézanne.
Cézanne, oui, c'est vrai.
Et avec un rythme qui est à la fois très très lent et très rythmé. Et puis moi, j'ai
dans les années 80, faut pas oublier qu'on est dans les années 80, les années pop, et France Gall sort Cézanne Pain.
Cézanne Pain. Hommage à Cézanne. Et puis je trouve que après c'est quelqu'un qui a eu une attitude dans la vie que j'ai trouvé assez admirable parce que c'est quelqu'un qui a eu un destin quand même fracassé. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui a une belle attitude et puis je trouve ça assez beau cette idée d'une image de, comme ça de femme faite pour le bonheur et qui finalement assume un destin très très lourd.
La disparition de France Gall a marqué beaucoup d'entre nous, car France Gall, ce sont, vous le disiez, quelque part des souvenirs, souvenirs d'enfance, de jeunesse, des souvenirs en famille, peut-être même les derniers souvenirs avec un être cher. France Gall a marqué plusieurs générations, avec notamment sa bande d'amis et ses engagements dans les années 80, aux côtés de Daniel Balavoine, Coluche, Michel Berger ou encore Richard Berry. Que ressentez-vous, vous, Philippe Delerme, là, à sa mort? Quels sont les souvenirs qui vous reviennent, personnels? Vous en avez autour de France Gall, avec votre fils, peut-être Vincent Delerme, au piano, qui s'est inspiré de Michel Berger, lui.
Écoutez, pas plus tard qu'hier, il se trouve qu'en ce moment, j'apprends la guitare à mon petit-fils, donc le fils de Vincent.
Vous ne voulez avoir que des musiciens dans la famille, c'est ça?
Faut pas forcément, mais parce que bon, moi j'ai fait de la guitare sans souhaiter forcément faire de la chanson. Et il m'a dit hier soir, moi j'apprendrais bien à la groupie du pianiste. Alors donc, voilà, donc comme quoi, ce sont des chansons qui passent un peu les générations. Et c'est vrai que cette époque-là, avec Balavoine, on prenait des sacs de riz, c'était quand même... Des grands souvenirs, je pense, de pas mal de lycéens de l'époque.
Ouais, Action École, notamment, tout le combat en Afrique.
J'étais plutôt prof.
L'Afrique flamboyante, c'est l'image que je veux donner de ce continent. Ça ne changera rien, le fait que je sois triste et que je montre les choses affreuses qui se passent dans ce pays. Ça ne changera rien, en revanche, de parler de l'Afrique flamboyante, je trouve que c'est autre chose. L'Afrique, c'est ça aussi.
France Gall, femme engagée, je le disais, notamment en Afrique avec le projet Action École et plus tard, à la mort de son mari et de sa fille, elle ira au Sénégal aider discrètement à sa manière la population locale. Le Sénégal la sauvera aussi parce que ce nouveau pays devient son refuge au moment où elle est dans une détresse immense, insurmontable, dit-on. Vous en parliez, Philippe Delerme. Pourtant, la vie prend le dessus. Vous ne trouvez pas qu'il y a une accointance, Philippe, entre les textes de France Gall et les vôtres? Il traite finalement de la même chose avec la même légèreté apparente. Les plaisirs et les déconvenances de la vie.
Oh, si vous faites allusion à mon dernier recueil, vous pouvez peut-être...
Oui, on va y venir.
Priori, souvent, on a un peu blagué aussi, France Gall, sur ce qui avait été supposé de sa naïveté quand elle interprétait Serge Gainsbourg. Je reviens un tout petit peu là-dessus parce que ça
c'est autre chose.
Ça m'a dérangé un tout petit peu parce que parfois, ça a été un peu appuyé. En fait, il faut revenir aussi à l'époque des années 60 où, par exemple, quand on voyait des allusions sexuelles quand elle chantait les sucettes à l'Annie, bon, je pense que dans les années 60, il n'y avait pas tellement de gens. Il y avait certains petits sourires en coin, mais c'était ça n'avait rien d'évidence. On parlait pas de pipe et de fellation à tour de bras comme on le fait aujourd'hui. C'était tout à fait autre chose. Et c'est vrai que moi, ça m'a un petit peu attristé de voir, notamment sur Facebook. Moi, je n'ai pas Facebook, mais ma compagne là, et on voit des gens qui disent ah oui, France Gall, les sucettes à l'Annie. Bon,
ce sont des phrases qui vous agacent. Donc, du coup, c'est ça.
Mais en tout cas,
on y vient.
Oui, ce sont des phrases qui m'agacent. Voilà. C'est en cela peut-être qu'il y a quelque chose de commun.
Mais sinon... je pense à l'amitié, tout ce qu'elle a porté aussi. Les plaisirs de la vie qu'elle a chanté avec Michel Berger. Et c'est vrai que vous avez commencé avec ça, la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'était des fragments de vie aussi.
Oui.
Comme les chansons de France Gall.
Avant le succès de la première gorgée de bière, j'avais écrit une douzaine de livres qui étaient quand même souvent très très mélancoliques.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. La mélancolie, c'est justement, évidemment, on va vous faire plaisir parce que vous vouliez en écouter un extrait.
On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue qui ne change rien, qui change tout, évidemment, évidemment, m'aimait tant.
Dès les premiers sons de sa voix, il y a comme une grâce réconfortante. C'était une voix familière, finalement, France Gall. C'est vrai que dès qu'elle chante, il se passe quelque chose. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais en tout cas, nous, on le vit comme ça ici. Bon, on va parler de votre recueil de textes sur la vie qui sort en ce mois de janvier aux éditions du Seuil, Philippe Delerme. Et vous avez eu beau temps, la perfidie ordinaire des petites phrases. C'est un peu l'inverse de la première gorgée de bière. Là, vous évoquez les moments de la vie qui vous agacent. Et c'est la mauvaise foi, les donneurs de leçons qui semblent vous énerver le plus.
Oui, c'est vrai, il y a pas mal de choses. Enfin bon, il faut dire aussi que c'est un recueil de textes qui comporte pour moitié des textes plutôt tendres, on ne se refait pas, mais aussi quand même pour plus de la moitié des textes plutôt consacrés à l'hypocrisie ou à la duplicité de l'éternel humain, donc à travers des petites phrases de la vie prononcées ça et là, des petits mensonges, des petites approximations.
Ouais. Ouais. Moi, je dis ça, je dis rien, par exemple.
Oui, alors là...
Ou je lis les journaux chez ma coiffeuse.
C'est vrai que ce sont souvent des femmes qui disent cela, mais la première partie du texte évoque aussi cette espèce d'attitude que je reproche aux hommes, qui est de déployer parfois le canard enchaîné de façon manifeste. Et ça m'a toujours amusé. Pourquoi dans les métros, dans les bus, on voit toujours des hommes qui lisent le canard le mercredi pour montrer à quel point ils sont rebelles et de gauche, alors qu'on ne voit jamais une femme qui éprouve le besoin de réclamer comme ça, socialement, un brevet comme ça de rébellion. Et souvent, les gens qui lisent ça n'ont pas une tête forcément très rebelle.
Les sportifs aussi, vous égratignez les sportifs. Alors ça m'a beaucoup étonné, Philippe Delerme, parce que vous êtes un passionné de sport, vous êtes déjà venu dans cette émission d'ailleurs pour parler sport, et vous dites que les footballeurs, ils ont comme ça des phrases toutes faites en sortant des matchs, et ça vous énerve à un point. En même temps, moi aussi j'avoue que là, le côté c'est grâce au collectif.
Insupportable.
C'est vrai que c'est juste insupportable.
Quand on voit ces gens qui, il y a une personne sur un million qui arrive à assumer leur destin de devenir un footballeur vedette, gagner 800 000 euros par mois, de marquer des buts. On les interviewe parce qu'ils viennent de marquer des buts et ils vous disent sur un petit ton tristouné, c'est grâce au collectif. Mmh. Et alors c'est cette pudeur magnifique qui revendique à ce moment-là, elle n'est pas tellement suivie d'effet quand ils sont, quand leur entraîneur les sort à la 50e minute d'un match. En général, ils donnent un grand coup de pied dans une bouteille d'eau minérale et puis ils rentrent dans les vestiaire sans regarder personne. Et dans ce cas-là, le recours au collectif semble beaucoup moins primordial. Ouais. Dans le
Trois libraires ont lu votre recueil de textes, Philippe Delerme. On commence avec la Suisse et Laura Sanchez. Qu'en pensez-vous, Laura ?
Alors moi, globalement, je suis un peu mitigée par ce recueil. Je crois que pour moi, il y a quelque chose, ça manque de surprise. Alors voilà, ceci étant dit, j'ai quand même deux choses à relever. J'ai beaucoup aimé « Ça n'ira pas plus bas » parce que c'est très très poétique. Ça parle pour moi d'un rapport au monde qui est joyeux et détendu. Et puis, moi je voulais vous dire, monsieur Delerme, que moi non plus, j'ai pas lu « Au-dessus du volcan » et que je ne le vis, moi non plus, pas trop mal.
D'accord, c'est bien.
Oui, ça sont les phrases. Comment t'as pas lu ce livre-là, donc « Au-dessus du volcan » en l'occurrence, parce que c'est l'exemple que vous donnez, Antoine Front. Pour la France, que voulez-vous dire à Philippe Delerme ?
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des textes qui étaient vraiment très réussis. Vous avez une observation du langage que moi, j'ai pas du tout. Et franchement, vous dénichez des choses que vous êtes vraiment beaucoup à l'écoute des gens. Et ça, je trouve que c'est super.
Merci.
Ensuite, je trouve que là, vous êtes le meilleur, c'est quand vous créez des histoires. Parce qu'en fait, vous créez des histoires. Par exemple, une grand-mère qui regarde ses petits-enfants. Et là, je trouve que vous êtes très bon. Ensuite, moi, je suis un amateur des gros livres et des grandes phrases. Et donc, du coup, ça me laisse un peu sur ma faim. Voilà.
Okay. Moi, il y a une phrase qui m'a énervé dans votre livre, Philippe Delerme. En fait, c'est la formulation de la phrase qui vous énerve qui m'a énervé.
Ok.
Ça va, vous suivez ?
Oui.
Passer un texto en arrivant.
Oui.
Personne ne dit passer un texto.
Si,
oui.
Les gens qui tiennent à être sûrs que les gens qu'ils aiment sont arrivés.
Non, mais envoie-moi un texto quand t'arrives. Oh, passer un texto ?
Oui, passer un texto. Ah, mais je comprends qu'un littéraire comme vous soit choqué par le passé, mais là, les gens qui sont à côté de moi, souvent, ils disent passer un texto en arrivant. Ah, ce qui veut dire je ne me contenterai pas d'un coup de téléphone demain matin, je serai inquiet jusqu'au moment.
Oui, ça, oui, d'accord.
Je serai rentré.
Ouais. Ouais. Non, mais, passez un texto, Jean Solé, bonjour, vous êtes tout calme, tout gentil. vous dites ça, passez un texto?
Rien de tout ça, moi je fais pas de texto, j'ai rien, je fais pas de smartphone, j'ai rien du tout, j'ai un vieux portable gallo-romain.
Oui, c'est vrai, effectivement, oui, il le montre. Oui.
Ah ben, et j'ai pas de réseau où j'habite à la campagne.
Philippe Delerme a le même téléphone.
À peu près.
Mmh. Et puis il n'y a pas de réseau où j'habite à la campagne, donc le portable.
Il y a des phrases qui vous énervent, vous, ou pas?
Oui, évidemment.
Quand on réfléchit, il y en a toujours une ou deux qui viennent. Moi, ce qui m'énerve, c'est profite bien. Vous savez, quand vous partez en week-end ou en vacances, profite bien. Ou alors à table, c'est délicieux. C'est délicieux, ça ne veut rien dire. C'est expéditif, ça veut rien dire. C'est délicieux. N'allons pas plus loin, ne soyons pas exigeants, c'est délicieux.
On a plein de tics de langage. Moi, il y a un truc que je dis, j'en ai parlé hier, c'est pas de souci.
Pas de souci.
Toute la journée. Mais...
Non, ou les mômes qui disent c'est trop, toujours.
C'est trop.
Ah, c'est trop.
Qu'est-ce qui vous énerve, vous, à Philippe Delerme, dans la formule et en même temps, je peux comprendre.
Ah, c'est surtout je peux comprendre, parce que la personne qui vous dit en même temps je peux comprendre, ça veut dire qu'elle s'adresse à vous avec en affirmant qu'elle comprend davantage. Mais surtout, c'est vrai que c'est une situation qu'on a souvent quand on est un peu pétardier, comme c'est mon cas, et que voilà, quand je descends d'une rame de métro et que les gens se précipitent sans attendre que les gens descendent, et vous dites que c'est insupportable, c'est les gens qui n'attendent pas que les autres soient descendus pour monter. Et la personne qui est avec vous, si elle dit mais en même temps je peux comprendre, parce que c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui traînent, que maintenant ça va très vite. Et alors, mais surtout en même temps, je peux comprendre, ce qui sous-entend quand même clairement vous ne comprenez pas.
Je reviens vers vous aussi. Alors quand vous avez un rendez-vous, par exemple, vous allez voir quelqu'un d'important, et puis la personne à la fin de l'entretien vous dit « je reviens vers vous ». Ça, c'est l'assurance d'une mauvaise nouvelle, mais différée. C'est-à-dire qu'on vous recontactera et puis on vous dira à ce moment-là ce qu'on en pense.
Ah, c'est une phrase qui établit un rapport de force, en fait. Ça veut dire « je suis plus important que vous ». Quand on dit « je reviens vers vous », c'est « je condescends à revenir vers vous ». Bon, ne supposez pas forcément que ce soit pour une bonne nouvelle, c'est déjà pas mal que je revienne vers vous.
Exactement. Annick Dor est en Belgique. Quel est votre avis sur le nouveau Philippe Delerm, Annick?
Ah ben, vous avez indéniablement le sens de l'observation et puis aussi le sens de l'analyse. Alors, en toute bienveillance, ceci dit, j'ai quand même trouvé que certaines de ces expressions, certaines de ces petites phrases sont marquées géographiquement parce que elles sont totalement, enfin certaines sont totalement inconnues en Belgique. Alors, je pense à notamment à Sétivotan, j'ai bien entendu, ça nous pousse.
Elle est normande, voilà. C'est son nom.
Oui, moi non plus, je connaissais pas. Hein. Sétivotan, ouais, je connaissais pas.
Je sais, ouais. c'est à Beaumont-le-Roger qu'on dit ça.
Enfin, voilà, j'imagine que certains de mes collègues ou mes collègues libraires canadiens et suisses ont peut-être ressenti ça aussi un petit peu. Mais ce qui aussi m'a fait rire, j'avoue, c'est l'expression « je préfère Gand à Bruges », qu'à mon avis, aucun Belge ne dit, mais ça m'a fait beaucoup
rire. Alors là, j'en connais pas mal, je connais notamment Genion qui a écrit des bouquins qui ont eu assez de succès en Belgique et qui dit ça tout le temps.
« Je préfère Gand à Bruges ?» Mais ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire « moi j'aime ce qui est vivant ». Alors bien sûr, le charme que vous trouvez à Bruges, c'est en fait une petite ville
musée
morte avec... Non mais ça veut dire ça, parce qu'il y a Bruges la Morte, c'est un roman que tout le monde connaît. Et ça signifie bien
ça
sûr que si on préfère Gand, ça veut dire moi je suis moderne, j'aime. Bien sûr, il y a un peu du charme de Bruges à Gand, mais en plus dans une ville qui vit vraiment.
Merci beaucoup, merci Philippe Delerm. Et vous avez eu Beau Temps est paru aux éditions du Seuil. Merci d'être revenu dans la librairie francophone. Vous restez bien sûr avec nous à suivre dans cette librairie le 500e numéro de Fluide Glacial. Vous avez entendu Jean Soleil, il est en plateau avec nous. L'hommage d'Ati Grahimi à POL, Paul Otchakov Laurence et la musique de France Gall. Un jour de 1980, Elton John est à Nice. Il séjourne comme à son habitude au grand hôtel Le Negresco sur la promenade des Anglais. Il entend à la radio les chansons il jouait du piano debout et la groupie du pianiste. Il appelle alors Michel Berger pour lui dire qu'il veut enregistrer un titre avec France Gall. C'est un conte de fées auquel le couple ne croit pas tout de suite. Quelques jours après, pourtant, il se retrouve à Los Angeles pour enregistrer deux titres, dont Donner pour donner, qui deviendra l'un des tubes les plus importants de France Gall.
Si vous pouviez revivre un moment de votre carrière, lequel vous choisiriez? Quand Elton John est venu chanter avec moi sur la scène du Palais des Sports. When a hand is silver lining, when a crime to make the headline news, if it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé.
C'est pas la peine.
Pas la peine de rester couché.
Non, c'est pas la peine.
Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué.
Je te donne mes sourires morts.
la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tu donner. C'est la seule façon d'aimer.
Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer.
France Gall et Elton John, Donner pour donner, tube de 1980 sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Et bonjour à Tigre Raimi.
Bonjour.
Paul Tchaïkovski, Laurence nous a quitté lui aussi. C'était juste après le jour de l'an, le 2 janvier, à l'âge de 73 ans, sur une route de Marie-Galante en Guadeloupe. Très difficile début d'année 2018. Et je voudrais, puisque l'on fait ces hommages, penser à tous ceux qui ont perdu un être cher ces derniers jours. Il n'y a pas que France Gall, Paul Tchaïkovski ou bien Bernard de Fallois. Ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. En tout cas, pour vous, à Tigre Raimi, Paul Tchaïkovski, Laurence, a été l'éditeur qui a changé votre vie.
Oui, parce que j'ai commencé avec lui, quand je suis arrivé en France, bien sûr, toute mon obsession, c'était de faire du cinéma, du film, parce que je pouvais pas écrire en français ni en persan. Alors, pour qui, pourquoi? Quand j'ai eu la drame dans ma famille, que j'ai perdu mon frère, donc je voulais faire le deuil, j'écris en persan. Petit livre intéressant que une amie a traduit en français. Elle voulait envoyer à quelques éditeurs français. Donc, elle m'a demandé quel était mon éditeur préféré, ouais. Etc.
Et vous avez dit POL?
POL, parce que,
ah oui.
POL, parce que grâce évidemment à ces publications des œuvres de Georges Perec de Duras.
Oui, c'est ça.
Donc voilà.
Et alors il vous publie. Donc,
oui.
Et vous vous demandez pourquoi? C'est-à-dire que vous allez le voir?
Oui, justement avant qu'il.
Et vous lui dites mais pourquoi vous le publiez?
Le 12 novembre, ouais. C'était le 12 novembre 99. Il allait prendre l'avion pour aller au salon du livre de Montréal. Et je voulais absolument le voir et lui poser cette question pourquoi il voulait publier, parce que moi, comme j'étais le premier écrivain étranger traduit et publié par Paul. Donc, c'était étrange. Et il m'a sorti une phrase avec son élégance discrète, reconnaissable, très simple. Il dit, parce que derrière ce texte, j'ai vu quelqu'un qui croyait aux mots. Mmh. Et il ne m'a pas envoyé des fleurs ou tant d'adjectifs, d'accord. D'ailleurs, il utilisait très peu d'adjectifs. Pour ses auteurs, c'était toujours formidable ou c'est sensationnel. C'est tout.
C'est vrai qu'il était très attaché à l'expression de la langue. Il disait « La plus belle histoire du monde ne m'intéresse pas si elle n'est pas portée par une forme qui l'exprime ou la transcende. » Donc ça correspond effectivement à ce qu'il nous a dit. Vous croyez aux mots. Oui, à la
le film qu'il a fait, éditeur, dans lequel il dit que voilà, la vérité est une forme.
Marguerite Duras va donc confier, vous l'avez dit, à POL ses cahiers de guerre qui forment la douleur. Mmh. Puis Paul Otchakowski-Laurence va révéler Marie Darrieussecq, Martin Winkler, Emmanuel Carrère ou encore Nicolas Fargue. Mmh. Et vous serez son seul prix Goncourt à Tigre et Émi. En 2008, vous décrochez le prix Goncourt avec Singh et Sabour, qui est votre premier roman écrit directement en français. Comment il a vécu ce moment avec vous ?
Ah, j'étais dans son bureau. Et déjà, quand il m'a appelé la première fois pour me dire que j'étais sur la liste de Goncourt, je croyais qu'il plaisantait. Donc, forcément, j'ai dit qu'on avait besoin d'un afghan de service. Donc, voilà, Lise, on a fait la guerre en Afghanistan, donc il fallait mettre aussi un écrivain afghan dans les listes, ça fait pas de mal.
Et puis après, il y a eu la deuxième liste.
Oui, deuxième liste, la dernière. Moi, j'y croyais non plus. Mais le moment où je commençais à faire le voyage et rencontrer notamment les lycéens.
Oui, pour le concours des lycéens.
Voilà. Petit à petit, j'ai commencé à avoir un peu de... de confiance en moi et en mon texte. Sinon, oui.
Ouais. Merci beaucoup, Attic. Merci d'être venu chez nous, chez vous. Vous êtes chez vous ici, vous le savez. Comme Joël Dicker, vous avez rendu hommage à votre éditeur. C'est une grande marque de respect que vous leur portez à vos éditeurs. Il est bon de le souligner. Et puis, c'est aussi une marque de confiance pour la librairie francophone. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, malgré l'émotion très grande, je le sais. On vous souhaite d'ailleurs tout le courage possible pour surmonter cette épreuve.
Oui, j'ai l'impression qu'il a emporté avec lui mes mots, quoi. Pour l'instant, je ne peux pas écrire. Bon. Ça va venir.
Ça va venir. Bon courage à toi.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Jean Solé est donc avec nous. Rebonjour Jean, on va essayer de se détendre un peu avec vous grâce au 500e numéro de Fluide Glacial. Vous avez sur la table un fluide, je vois. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le numéro 1 ?
Numéro 1, deuxième trimestre 75.
Ah oui, alors moi j'ai le numéro 500, premier trimestre 2018. Oui, effectivement, c'est un collector que vous avez
donc
en
ça
main.
Ça me rajeunit pas, hein, j'ai presque l'âge qu'avait France Gall. Aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui, ouais. Bon. Et vous avez créé Fluide Glacial avec Gottlieb.
Non, non,
c'est Gottlieb qui crée Fluide Glacial.
C'est Gottlieb avec Jacques Diamant,
exactement.
Qui est un ami d'enfance, qui est un commercial.
Ouais.
Avant, il y avait eu le précédent de L'écho des savanes, ouais. avec Nikita Mandrika et Claire Bretéché.
Ouais.
Qui s'était fini en eau de boudin un peu.
Ouais. Ils étaient venus, vous savez, ils étaient venus 20 ou 30 ans ou 40 ans après dans la librairie francophone Claire, ouais, Claire. Et Gottlieb, ouais. Pour une rencontre.
J'ai entendu.
Vous aviez entendu
Je voudrais rendre hommage aussi à mon éditeur, Marcel Gottlieb, puisque finalement il a créé Fluide et il m'a édité, donc dès le numéro 1. C'était un rédacteur en chef plutôt, mais on lui doit tous beaucoup.
Oui. Gottlieb, avec Edika autour, Franquin, Binet, Gossens, Jean Solé, plein d'autres. Et au début, c'était très artisanal. Vous dites, c'était un peu expérimental aussi.
C'était un peu underground, comme on disait à l'époque.
Ouais.
Et puis c'était un trimestriel, hein, donc c'était 4 numéros par an. On s'est connus à Pilote, parce que c'est René Goscinny qui m'avait recruté en 70. Et donc, il a demandé à ses copains, j'avais la chance d'en faire partie, de participer au premier numéro. Et puis j'y suis toujours. Je suis un des seuls survivants, malheureusement.
Alors vous êtes un dessinateur incroyable. Je le dis aux auditeurs qui ne vous connaissent pas, vous êtes un dessinateur dingue, Jean Solé. Vous avez un talent fabuleux. Non mais vraiment, je vous conseille d'aller voir ne serait-ce que les couvertures de Fluide Glacial que vous réalisez. Elles sont dans le détail, dans la minutie. C'est incroyable.
Ah
et
bon,
c'est exactement comme Gottlieb, si je peux me permettre. On adore Gottlieb et c'était un ami de cette émission. Mais vous êtes très proche de l'univers de Gottlieb avec la même qualité de dessin. Vous êtes conscient de ça
commun,
ou pas ?
On a en commun aussi l'humour.
Oui, aussi. Oui.
Qui est la marque de Fluide Glacial. D'ailleurs, c'est un journal d'humour.
Ouais,
je sais pas quoi dire. Un tel déluge de compliments. Je suis pas sûr d'adhérer complètement, d'ailleurs. Mais enfin bon.
Ah bah oui, vous pouvez pas.
On est mauvais juge.
Bah oui, c'est sûr. Il y a votre fils aussi, Julien CDM.
Julien, oui.
Ouais, qui fait partie de la famille Fluide Glacial. C'est une histoire de famille. C'est un journal de mecs. On a dit que c'était un magazine de mecs. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, dans Fluide.
C'est vrai. Ouais. Il y en a. Il y a Isa, maintenant. Il y a Claire Bouillac. Mais la bande dessinée, c'est un peu historique, ça. La bande dessinée était au départ un truc de garçon. Les filles en lisaient très peu. Dans le lectorat aujourd'hui, c'est majoritairement masculin aussi. Mais elles y viennent petit à petit. Il y a de plus en plus de filles de grands talents qui arrivent dans le métier. Puis il y a les hommes lisent le Canard Enchaîné aussi.
Philippe Delerme. Philippe Delerme lit le Canard Enchaîné, mais en cachette.
Et donc,
c'est ça, non? C'est ça, oui.
Donc c'est venu de ça aussi. C'est dans les journaux que je lisais petit, Spirou, Tintin, ouais. Tout ça, c'était que des mecs, qui dessinaient, des grands maîtres, les Franquin et compagnie. Donc moi, très petit, je voulais faire ça, quoi. J'ai acheté le premier numéro de Pilote, j'avais 10 ans, 11 ans. Et 10 ans après, j'y rentrais, quoi. Donc voilà, puis mon fils Julien qui adorait dessiner, voilà, Gottlieb lui a donné le biberon aussi.
En tout cas, c'est vrai que vous êtes respecté par les lecteurs, très respecté. Fluide glacial, c'est aussi une collection. Donc il y a des livres qui sortent, on en parle régulièrement dans cette émission, des albums avec des auteurs qui ont une intelligence et une compétence incroyable. Et c'est l'un des seuls magazines qui vit sans publicité. Ouais. Le succès là depuis plus de 40 ans, c'est une histoire complètement unique dans le paysage francophone de la BD.
Oui, le Canard Enchaîné n'a pas de publicité non plus. Charlie Hebdo non plus.
Arrêtez avec le Canard Enchaîné.
Oui, on arrête. Mais malheureusement, j'ai perdu des bons copains Cabut. Enfin bref. C'est un peu une histoire de famille, puis ça s'est renouvelé constamment. Il y a de nouveaux auteurs qui sont arrivés, il en arrive toujours de nouveaux. Donc voilà, oui, puis c'est très convivial comme univers.
On va aller voir du côté du Canada. Si Fluide glacial a autant de succès qu'en Europe francophone, il y a Marie-Noëlle Blé qui est avec nous depuis Montréal. Marie-Noëlle, alors.
Oui, tout d'abord, félicitations pour ce 500e numéro.
Merci.
Je dirais que Fluide glacial, peut-être parce qu'il est un petit peu moins politique que Charlie Hebdo, donc peut-être plus exportable. Il représente ici aussi un patrimoine BD vraiment important avec son humour légendaire. Dans la foulée de Fluide, en 79, ici au Québec, il y a eu la naissance du magazine Crow, qui était sensiblement dans le même esprit, puis qui, avec Fluide, a contribué à porter la BD grand public vers un public un petit peu plus adulte.
Il faut quand même savoir... auteurs d'encre comme Moerel qui est venu à Fluide ensuite.
Il faut quand même savoir que les magazines se trouvent peu en librairie en ce moment au Québec. Donc Fluide, par exemple, se trouve surtout dans les tabagies, quelques kiosques à journaux qui sont eux-mêmes assez rares. Par contre, les éditions Fluide glacial, elles, se trouvent évidemment dans toutes les bonnes librairies, même si ces dernières tombent malheureusement souvent en rupture de stock parce que les exemplaires en circulation ici sont peu nombreux. Mais bon, ça, c'est un autre débat.
Ouais. Glacial, ça va bien avec Montréal, non?
Qu'est-ce qui va bien avec Montréal?
Glacial.
Glacial. Non, mais c'est super récemment, facile, Jean, ça. C'est pas digne de vous, ça. On va parler du suppôt, tiens, puisque on n'est pas digne de... Le suppôt, vous savez que dans le numéro 500, il y a une publicité, une fausse publicité d'un suppôt. Fluide glacial, donc, en suppositoire, qui se diffuse doucement dans votre rectum. Ne laissez pas passer cette offre, nous dit-on, ou plutôt si, laissez-la passer. C'est un peu ça, l'esprit fluide glacial, et ça fait référence à Fluide glacial, qui est le nom qui fait allusion à une farce et à trappe du même nom, c'est ça?
Oui, bien sûr, c'était un gel qu'on mettait sur les sièges et qui donnait l'impression aux gens quand ils s'asseyaient d'avoir pissé sous eux, quoi. je m'excuse d'être trivial. C'est une grosse blague, c'est comme la boule puante ou toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Camembert qui fait poète-poète, enfin tout le...
Le numéro exceptionnel, le numéro 500, se projette dans le futur. Vous imaginez le numéro 1000 et vous imaginez que Fluide devient le plus grand journal de tous les temps, qui peut faire la pluie et le beau temps sur le paysage politique, plus encore que Charlie Hebdo. Vous le voyez.
Je vous remercie pour votre optimisme par rapport au numéro 1000.
Ben ça c'est vous, c'est ce que vous avez prévu. Vous le voyez comment, Fluide glacial, dans 20 ans, Jean Solé?
Je le vois pas. Enfin, je pense qu'il se sera beaucoup renouvelé. Malheureusement, et ça commence à bien faire, des tas de copains disparaissent petit à petit. Encore récemment, Michel Plessis, des gens comme ça, Annie Götzinger qui vient de nous quitter.
Il y a Mix et Remix, le Suisse aussi.
Oui.
Ça vous mine tout ça, Jean Solé? Vous avez du mal maintenant à dessiner depuis que Cabu, Wolinski, Sharp,
qui était un grand ami,
sont partis. C'est beaucoup plus dur aujourd'hui.
Moi, je dirais pas ça, parce que malgré tout, c'est aussi satisfaisant de dessiner. C'est une récréation, même tout en étant un travail, c'est une récréation, c'est quelque chose qui emmène ailleurs. Donc, c'est salutaire, de toute façon. S'arrêter, on tourne en rond et on finit par se tirer une balle. Donc, vaut mieux tremper sa plume dans l'encrier.
Bien, bon, continuez à tremper la plume, d'accord?
Ah oui, oui. Ah bah oui. Tant que j'aurai la force, je le ferai, parce que c'est, encore une fois, c'est pas un métier. Mmh. En fait, ce qui est inimaginable, c'est que je peux dire que je fais ça depuis la maternelle. Je n'ai fait que ça.
Oui, c'est vrai.
Je n'ai eu qu'un passage difficile qui a été mon service militaire. Mais sinon, depuis la maternelle, je dessine et je n'ai jamais cessé. Alors que tous les mots me dessinent à la maternelle. Mais ils s'arrêtent vers 8-10 ans. Ça les emmerde ou ils préfèrent faire du sport ou autre chose.
N'entrez pas Philippe Delerme comme ça. Il n'a pas fait de sport, il en a parlé, c'est tout.
Et je ne sais pas pourquoi quelques individus comme moi, on est passionnés par ça et donc on continue et puis parfois ça marche.
Bon, merci Jean Solé, c'était un grand plaisir de vous retrouver. Vous savez qu'on vous adore ici. On pense à Gottlieb, vous avez raison de le dire tout à l'heure. On pense à Cabu, on pense à Wolinski, à Tino Satuezo.
Gottlieb qui a disparu il y a un peu plus d'un an maintenant.
Oui, ouais. Voilà, bon, c'est bien triste ce début d'année. C'est... Fluide glacial numéro 500 est donc disponible. L'actu BD de ce mois de janvier, vous le savez, c'est le festival de la BD d'Angoulême où vous serez, Jean, avec de très nombreux auteurs de Fluide glacial. Le festival d'Angoulême, c'est du 25 au 28 janvier. Merci Jean Solé. À suivre la chronique des libraires tous ensemble et un premier roman sur l'intensité et parfois la violence de l'amitié. Peut-être qu'à la fin de l'émission, vous verrez votre meilleur ami sous un autre angle. Peut-être aussi que cette séquence va générer des ruptures. On poursuit en musique avec l'hommage du groupe canadien Arcade Fire à France Gall. Régine Chassagne chante Poupée de cire, poupée de son. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Ok, on va faire une chanson. C'est une vieille chanson que sûrement vous connaissez. Puis eux, ils la connaissaient pas. Puis ils ont décidé d'apprendre à la jouer. Alors maintenant, je la chante.
Groupe montréalais Arcade Fire qui interprète France Gall dans une version plutôt rock de Poupée de cire, poupée de son sur ici Radio Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires tous ensemble dans cette plus grande librairie du monde. Les coups de gueule et les coups de cœur. On commence avec le coup de gueule de Laura Sanchez en Suisse. On parle de la fabrication des livres avec vous apparemment, Laura.
Mais oui Emmanuel, un gros coup de gueule aujourd'hui. Tous ces livres imprimés en Chine, quel scandale. Ça nous rappelle d'abord à quel point le livre est devenu un produit industriel comme les autres. Mais en fait, c'est surtout un signal très grave de la part des éditeurs qui participent à cette grande braderie de nos objets quotidiens à une dictature capitaliste.
Bien.
Ni plus ni moins.
Le coup de cœur de Marie-Noëlle Blé au Canada, un peu plus de douceur avec un livre pour la jeunesse, Marie-Noëlle.
Ah oui, quand même un petit peu plus de douceur. J'ai envie de mettre de l'avant un album qui est paru, bon, évidemment, dans le 375e de Montréal. Il y a eu plusieurs publications, mais il y en a un qui s'est démarqué à la fin de l'année et qui arrive justement cette semaine en Europe. C'est l'album Les Saisons de Montréal de la Montréalo-Toulousaine Raphaël Barbanègre, qui est publié aux éditions La Pastèque. C'est un superbe album documentaire pour les enfants, disons, de 5 ans et plus, et qui présente les attraits de chaque arrondissement dans des teintes vraiment sublimes. Qui varie selon les saisons, mais instructif, inspirant. Donc voilà, procurez-vous-le.
Les Saisons de Montréal aux éditions La Pastèque. Merci Marie-Noëlle Blé. Je vais me permettre un petit coup de cœur avant le coup de gueule d'Antoine Front. C'est le livre Les Abeilles de Jean Solé et Yves Lecomte aux éditions du Lombard, la petite BDTech du Lombard, qui parle des abeilles et de l'importance considérable qu'ont les abeilles sur l'écosystème. Voilà, je voulais le souligner parce qu'on devait en parler, puis avec l'actualité, on n'a pas pu Jean Solé, ce livre-là.
C'est une très belle collection.
Ouais, exact. Un super livre. Antoine Franc pour la France, coup de gueule.
Bah, c'est juste que les éditeurs produisent trop, il faut arrêter. Hein. 600 romans en septembre, 400 en janvier. Ce dont il faut se rendre compte, c'est que tout ça, c'est des cartons, c'est des kilos. Les transporteurs n'en peuvent plus. On ne sait pas où mettre les colis. Et donc, arrêtez de publier autant. Publiez moins, on s'occupera tout aussi bien de vos livres. Voilà.
Ouais, mais c'est la liberté, c'est... le choix, c'est important. Vous savez, ce grand débat sur le choix culturel.
Mais quand même.
Vous n'en pouvez plus.
Non, on n'en peut plus quand même.
On peut plus. Merci Antoine. Et bonjour Myriam Leroy.
Bonjour.
Ariane, c'est le titre de votre premier roman, une histoire d'amitié toxique entre deux adolescentes qui ont entre 12 et 16 ans. On les suit surtout entre 12 et 14. C'est la période des grandes histoires d'amitié. Elles s'aiment vraiment au point d'être liées à la vie et à la mort.
Oui, c'est une amitié qui confine quelque part à l'amour. Et donc à la haine, parce qu'il y a l'amitié et puis il y a la rupture d'amitié que j'ai essayé de traiter comme une rupture amoureuse. Parce que je pense vraiment qu'à cet âge-là, entre 12 et 14 ans, spécialement pour les filles, l'amitié ressemble très très fort à l'amour, à la passion amoureuse.
Bah toujours, moi je crois. Hein.
Oui.
L'amitié c'est de l'amour.
Mais après on devient plus raisonnable.
Sans sexualité, mais c'est de l'amour.
C'est vrai.
Bah oui, on devient plus raisonnable. Oui. Alors on va y revenir, c'est très intéressant, parce que votre sujet porte sur cette amitié adolescente. Alors, l'amitié intense devient souvent exclusive. Elle exclut les autres quand on est ado. Ils deviennent, comme dit votre narratrice, des intrus les autres.
Oui, et elles vont les exclure au premier degré, et en fait leur faire subir toutes sortes de sévices qui va renforcer le lien entre elles, tout en éloignant les gêneurs qui se mureront en figurant en fait de leur histoire. Elles vont les utiliser pour s'amuser, elles vont jouir en fait de leur toute-puissance, parce que c'est aussi un livre sur la toute-puissance.
Alors le gros problème dans ce genre d'histoire d'amour, vous le dites, l'amitié c'est de l'amour, c'est lorsqu'il y a rupture. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas imaginer que cette même personne puisse vous faire du mal au point de vous détruire un jour.
Oui, puisse vous désaimer, puisse vous harceler. Et comme on n'a pas une énorme expérience ni de l'amitié ni de l'amour, bah, on peut croire que toutes les expériences qui viendront par la suite seront calquées sur celle-là. Et puis ça peut donner des comportements pathologiques aussi. Il y a Lorraine Groff qui a écrit ce bouquin magnifique, Les Furies, qui dit « La vie est comme un ballon de baudruche sur lequel il y aurait des taches. Et quand on gonfle le ballon, ben, les taches gonflent aussi en fait et elles grandissent. » Donc des choses a priori anodines comme une dispute entre deux meilleurs amis de 14 ans, ben, dont les adultes peuvent rire parce que ça a l'air de rien. En fait, ça devient quelque chose, ça devient cette grosse tache qui nous accompagne toute la vie.
Oui, elle dira « J'avais perdu mon unique ami, j'avais perdu 2 ans de ma vie. »
Qui est
c'est
énorme
radical, ça.
À cet âge-là. Oui, 2 ans de la vie, c'est un septième.
Et à force de déception, suite à une telle rupture qui devient un traumatisme, votre personnage dit vouloir s'appliquer à n'avoir besoin de rien ni personne. On en vient finalement à ne plus vouloir aimer.
En effet, oui, c'est ça. Et donc, elle s'applique méthodiquement à perdre tout ce qu'elle possède, et les gens, et les choses. Bon, évidemment, la vie se charge toujours de nous remettre des attachements sur le chemin. Mais en tout cas, c'était son ambition, en tout cas, à ce personnage.
On va laisser la place à nos libraires. La Belgique ou la Suisse, on commence par qui, Myriam Leroy ?
Ben, un peu de chauvinisme, la Belgique.
Un peu de chauvinisme, allons-y. Petit problème de liaison avec la Belgique, mais elle est là, Annick Dor.
Oui, alors c'est vrai qu'en tant que Belge ayant grandi dans le Brabant wallon, ben c'est vrai que moi j'ai évidemment été amusée par la description de cette province.
Il y a une espèce aussi de lutte de classe entre gamins et adolescents. J'ai trouvé ça vraiment très réaliste. Puis il y a aussi beaucoup de références aux années 90, enfin 90. Donc moi j'étais ado à la même période et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, cette plongée dans le passé. Toute cette cruauté, cette prise de pouvoir dans l'amitié, c'est vrai que ce sont des choses aussi qui existent. Et je trouve que vous les relatez dans ce qu'ils ont de plus brutal, sans concession aucune. Donc moi j'ai plutôt bien aimé ce roman.
Voilà. Bien. Laura Sanchez, en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Bah oui, ce roman est haletant et est très très bien écrit. Le malaise monte en puissance sans cesse et c'est absolument glaçant. Ça se termine évidemment très mal. Mais moi, étonnamment aussi, j'ai trouvé que c'était très drôle. J'ai beaucoup ri. Toute la première partie où la narratrice parle du décor du roman est vraiment drôle. Ouais. Une petite ville sans ciel et sans animation, une espèce de non-lieu. Et même si, en fait, rétrospectivement, on peut carrément y voir une justification de ce qu'il s'est passé.
Ouais, c'est vrai que vous soignez un peu la province belge, hein, Myriam.
Mais oui, mais en fait, j'avais spécifiquement envie d'ancrer ça là, parce que nous, les Belges, on est toujours très complexés de faire figurer nos lieux dans des romans. Même Bruxelles, on en a honte de Bruxelles, alors que les auteurs français ont absolument aucun problème.
Avec Paris, ils ont aucun problème. Ouais.
Non, avec Paris, ou avec des bleds improbables, oui, et les auteurs américains aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il semblerait que les amitiés intenses, amoureuses, soient plus fiables lorsqu'elles surviennent après l'adolescence. Ça rejoint ce qu'on disait au début de cet entretien, Myriam. Comme si l'adolescence, territoire de l'expérimentation, ne permettait pas assez de maturité pour garder les autres. Qu'en pensez-vous ?
Oui, ben je pense qu'en amitié comme en amour, la distance, c'est pas mal.
Quel genre de distance ?
Ben, celle qui laisse passer la lumière et qui laisse exister l'autre aussi, et faire occuper à l'autre son volume dans l'espace et dans la vie, ce qui n'est pas toujours le cas à l'adolescence. Ici, j'ai parlé d'une amitié fusion. Ouais. C'est une hydre à deux têtes, en fait, ces deux personnages.
Ça peut être beau, une amitié fusion, non ? Jamais ?
Ça peut être beau, mais c'est souvent très problématique, je crois.
Vous l'avez vécu, vous ?
Oui, moi je l'ai vécu. Ah oui. Je me suis basée en fait sur une séquence de ma vie réelle sur laquelle j'ai fait un travail d'imagination et de fiction. D'accord. Mais en effet, je me suis disputée avec ma meilleure amie à 14 ans et ça fait partie des grands drames de mon existence.
Ah oui ? Vous étiez la gentille ou la méchante ?
Eh bien, alors j'étais la gentille, évidemment, oui, vous en doutez.
De votre côté,
mais,
quoi.
Mais comme j'explique dans le livre, en fait, est-ce qu'il y a vraiment des gentils et des méchants ? Ouais. Est-ce que j'étais pas moi aussi très méchante ? Peut-être.
Peut-être, ouais. Ouais. Vous l'avez revue, cette amie, ou pas ?
Non.
Jamais ?
Non, jamais.
Elle vous manque ?
Une amitié pareille me manque, oui. Ouais. Oui, c'est vrai.
Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Allons-y, au Canada, avec Marie-Noël Blé, qui a beaucoup d'amis. À Montréal.
Oui. Un peu partout. Mais j'ai moi aussi adoré le style que j'ai trouvé à la fois frais, grinçant, abrasif. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette immersion dans l'adolescence n'est pas du tout ennuyante. J'ai trouvé que vous avez bien su rendre ces petites choses cauchemardesques de cette période ingrate de la vie. Il y a peut-être quelques clichés qui m'ont semblé un peu superflus, comme le stress du premier baiser, par exemple, mais vraiment, j'ai trouvé cette plongée au cœur d'une amitié toxique absolument passionnante.
Vous faites l'unanimité. Félicitations.
Je suis ravie. Voilà, j'avais ravie. Peur.
Oui, on a toujours peur. Surtout quand c'est le premier roman. Oui. Ici, c'est pas toujours facile. Voilà, le premier roman de Myriam Leroy, Ariane, est paru aux éditions Don Quichotte. Félicitations, Myriam.
Merci beaucoup.
À très bientôt. Bonne chance pour la suite.
Merci.
Au revoir.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe Mosla avec un extrait de L'amour, c'est mieux.
L'amour.
Jacob Mosla, L'amour c'est mieux, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Philippe Delerme n'a pas Facebook, mais quand même, vous resterez quand même avec nous. Merci, au revoir Philippe. Au revoir, à très bientôt. Merci. Au revoir Jean Solé, Myriam Leroy, merci beaucoup. Vous n'avez pas de Facebook, Jean. Bon. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Loïc Frappsos, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véré avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Yannick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Elput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, la suite de cette rentrée littéraire de janvier avec des surprises, plein de choses comme d'habitude et ce grand voyage qui continue. Passez une bonne semaine, un bon week-end. Salut.